Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et nous partons tout de suite en Bosnie-Herzégovine, à 3 jours des élections générales. Élections complexes, les électeurs votent notamment pour 4 présidents, 2 vice-présidents et 5 chambres parlementaires. Élections complexes donc et campagne dominée par les tensions nationalistes. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile d'exercer le métier de journaliste. Pour preuve, l'agression violente à la fin de l'été du journaliste d'investigation Vladimir Kovacevic. Des manifestations ont alors été organisées un peu partout pour dénoncer le climat de violence, une sorte d'électrochoc pour les médias du pays qui s'apprête à couvrir le scrutin. Reportage à Sarajevo de Cécile Debarge.
Voilà, on a un autre studio en sous-sol, mais celui-là, c'est le principal. Celui pour les infos, alors qu'en bas, ce sont les talk-shows et les invités politiques.
Mur bleu, grand bureau blanc et dans le coin de la pièce, un grand studio télé. Voilà à quoi ressemble l'un des centres névralgiques de l'information en Bosnie, la BHRT, c'est-à-dire la télévision publique. Nikola Marković en est désormais le rédacteur en chef après plusieurs années passées à la présentation. À la BHRT, comme dans tous les autres médias du pays, la violente attaque contre le journaliste d'investigation Vladimir Kovacevic à Banja Luka, dans le nord du pays, a été vivement suivie et dénoncée.
Toutes les chaînes de télé, tous les médias nationaux ont couvert cet événement et ont montré que quand on veut, on peut faire les choses ensemble, car c'était vraiment violent.
La Bosnie a atteint un point critique, avait alors commenté Reporters sans frontières.
C'était si brutal que ça a obligé tous les journalistes à faire preuve de solidarité et à dénoncer les faits, parce qu'on aurait tous pu être à sa place.
À plusieurs reprises au cours de la campagne électorale, Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, où a eu lieu l'agression, avait critiqué violemment le travail des journalistes. Cela doit cesser immédiatement, avait alors averti RSF, craignant que ces violences verbales n'ouvrent la voie à des violences physiques. Une exhortation vaine, tant le climat s'est tendu depuis plusieurs mois déjà, explique Benjamin Butkovic, responsable des événements spéciaux sur BHRT.
La dernière attaque contre nos journalistes remonte au mois d'avril. Les attaques verbales sont notre lot quotidien. Ce sont des risques dont les journalistes bosniens doivent être conscients.
Des conditions de travail difficiles qui ne sont pas nouvelles, détaille Benjamin Butkovic, mais qui ces derniers temps ont redoublé d'intensité.
Lorsque j'étais directeur des infos générales, j'essayais d'avertir au maximum les collègues des risques qu'ils encouraient sur le terrain. Ce que je leur disais toujours, c'était de travailler le plus professionnellement possible, mais que s'ils devaient subir des intimidations ou des agressions, ils devaient immédiatement quitter le terrain et rentrer à la rédaction.
Pourtant, et Benjamin Butkovic tient à le souligner, lors d'une grave agression des journalistes de la télévision publique en 2010, la police leur est rapidement venue en aide. Au principal quotidien du pays, Dnevni Avats, le journaliste Sead Numanovic préfère y voir un signe de bonne santé de la presse.
J'espère que ces incidents malheureux, ces attaques contre des journalistes, démontrent aussi que les hommes politiques ne se sentent plus aussi à l'aise qu'ils en avaient l'habitude, qu'ils font face à une opposition croissante de la part des journalistes.
Une brèche s'est ouverte dans l'impunité de certains dirigeants dans un pays où les scandales de corruption sont nombreux.
Il y a une sorte d'entêtement de la part des journalistes partout en Bosnie à ne pas abandonner.
Pourtant, le quotidien Dnevni Avats s'est lui-même parfois pointé du doigt puisqu'il appartient à un ancien journaliste devenu magnat des affaires. Farudin Radončić se présente même à l'élection présidentielle pour le parti Union pour un futur meilleur. Mais Sead Numanovic balaie d'un revers de main les accusations de conflit d'intérêts.
Je ne me sens pas mal à l'aise et je ne subis aucune pression, ni de M. Radončić, ni de la plupart des autres hommes politiques d'ailleurs. On est à vase quand même, on est une marque, on est fort. La pression, ça ne marche pas, au contraire même. C'est une raison de rendre l'appareil à chaque fois qu'on le juge nécessaire.
Depuis l'agression de Vladimir Kovacevic, un homme a été arrêté. Une conférence de presse a alors été organisée en grande pompe pour expliquer qu'il n'avait aucun lien avec les autorités de Republika Srpska. Il faut savoir que la Bosnie est classée 62e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de RSF, dans un climat politique tendu, alimenté par des regains nationalistes. Reporters sans frontières appelle à la vigilance.
C'était la semaine dernière, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président français confirmait l'augmentation de l'aide au développement, APD, du pays d'un milliard d'euros. Ces augmentations confirment l'augmentation de l'aide française. Mais la France fait-elle vraiment mieux que ses voisins européens? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors comment se situe l'aide au développement de la France par rapport à celle des autres Européens?
Avant de vous répondre Catherine, rappelons que l'aide publique au développement, APD, est l'assistance financière fournie aux pays à revenus faibles ou intermédiaires par les 30 pays développés membres du comité d'aide au développement de l'OCDE. 56% de cette aide provient des pays membres de l'Union européenne, mais n'oublions pas les deux pourvoyeurs majeurs non européens d'APD que sont les États-Unis, premier pourvoyeur mondial d'aide au développement avec 35 milliards de dollars en 2017, et le Japon, quatrième contributeur avec 11 milliards et demi de dollars. La France se situait l'an dernier au cinquième rang mondial avec 11,3 milliards de dollars et occupait le troisième rang européen derrière l'Allemagne, 25 milliards d'aides, et le Royaume-Uni, 18 milliards. Un rang donc honorable pour la France et qui pourrait s'améliorer dans les années à venir puisque Paris s'est engagé à accroître significativement son aide pour la porter à l'horizon 2022 à 0,55% de son revenu national brut contre 0,43% actuellement. Mais l'on est encore loin de l'objectif d'aide au développement fixé depuis plusieurs décennies par l'ONU et l'OCDE, une proportion de 0,7% du revenu national brut.
Et quels sont les bons élèves de l'aide au développement ?
Ils sont tous européens puisque actuellement 5 pays atteignent ou même dépassent nettement l'objectif des 0,7%. La Suède, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni. Deux autres pays n'en sont pas très éloignés, l'Allemagne et les Pays-Bas. En revanche, la France n'est qu'en 12e position mondiale et européenne, même si son APD a fait un bond en avant en 2017. Contrairement à l'Italie et à l'Espagne, elle reste néanmoins au-dessus de la moyenne des pays du comité d'aide au développement qui est de 0,31% du revenu national.
Alors Daniel, l'aide publique est-elle vraiment dirigée vers les pays les plus pauvres ?
Les Nations Unies ont identifié 47 pays, principalement en Afrique, classés comme pays les moins avancés. L'objectif est de leur allouer au moins 0,15% du revenu national. De nombreux pays sont en deçà de cet objectif, c'est le cas de la France, mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. En revanche, le Royaume-Uni et la Suède sont au-dessus et consacrent plus du quart de leur aide bilatérale aux pays les plus pauvres. Si l'on considère pour chaque pays donateur les 10 premiers bénéficiaires de l'aide, les Britanniques et les Suédois canalisent leur aide vers 6 pays pauvres, mais l'Allemagne n'en compte qu'un seul et la France aucun.
Et comment explique-t-on cela ?
L'aide au développement française se dirige principalement vers le Maroc, l'Afrique francophone ou encore la Jordanie, le Mexique ou l'Inde, des pays tous classés à revenus intermédiaires. En somme, la France favorise le développement de pays avec lesquels elle peut développer avec profit des relations commerciales. D'ailleurs, il est très significatif d'observer la nature des aides fournies. Une dizaine de pays européens accordent plus de 95% de leur aide sous forme de dons. L'Allemagne ne le fait qu'à 75% et la France ne va pas au-delà de 55%. C'est dire qu'elle accorde une grosse part de son aide sous forme de prêts qui, par définition, doivent être remboursés.
L'aide française serait donc de nature assez peu humanitaire finalement.
Indéniablement. D'ailleurs, le poste aide humanitaire au sens strict est assez dérisoire pour la France puisqu'il ne représente que 150 millions de dollars contre près de 200 pour l'Italie, plus de 300 pour les Pays-Bas et surtout 1 milliard de dollars concernant le Royaume-Uni et 2 milliards et demi pour l'Allemagne. Il en va de même pour l'aide à l'accueil des réfugiés.
Mais cette assistance ne va pas aux pays en développement.
Vous avez raison, et certains s'en offusquent, puisque les organismes publics des pays développés se font ainsi rembourser au titre de l'APD une partie des frais qu'ils consacrent à l'accueil des réfugiés pendant la première année de leur séjour. Au-delà de la polémique, ce poste permet de mesurer l'effort effectif des pays en faveur des réfugiés. En 2017, la France y a consacré 560 millions de dollars, moins que les 850 millions alloués par des petits pays comme les Pays-Bas ou la Suède. Quant à l'Italie, elle consacre aux réfugiés un montant trois fois supérieur à celui de la France, et l'effort français est sans commune mesure avec les 6 milliards de dollars alloués l'an dernier par l'Allemagne.
Le pays des droits de l'homme est donc bien loin d'être exemplaire, Daniel.
Oui, si tant est que ce qualificatif pour la France ne relève pas en grande partie du mythe, comme le pensent souvent les anglo-saxons.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
C'est une première remarquable en Slovaquie. Issue de la minorité rome et maire de la commune de Gemer, István Vavrek a été investi récemment député de l'Assemblée nationale sur la liste du parti de la minorité magyarophone Most Híd, portrait signé Alexis Rosenzweig.
Membre de la communauté rome avec le hongrois comme langue maternelle, cela vaut à István Vavrek d'être doublement minoritaire dans la Slovaquie d'aujourd'hui, où Rome et magyarophone représentent les deux principales minorités de ce petit pays d'Europe centrale. Appelé Stefan en slovaque et István en hongrois, cet instituteur de formation a très tôt initié des projets de soutien à la communauté rome, dans le milieu associatif d'abord, puis en tant que maire d'une petite bourgade. Dans cette région de Gemer, les Roms vivent dans des conditions parfois très difficiles et l'extrême droite xénophobe réalise de gros scores. Les problèmes de la minorité rome sont une véritable bombe à retardement. C'est ce que déclarait Vavrek au moment de lancer son association, spécialisée notamment dans le soutien scolaire. Quelques années plus tard, les problèmes sont loin d'avoir disparu pour des dizaines de milliers de Roms, souvent considérés comme des citoyens de seconde zone en Slovaquie. Et c'est désormais au niveau national que l'ancien instituteur veut trouver des solutions. D'abord au sein du Conseil gouvernemental pour la minorité rome, et désormais donc sur les bancs du Parlement, où il vient à 36 ans seulement de remplacer une députée de sa formation politique, Most Híd, qui se veut être un parti multiculturel et bilingue slovaque-hongrois. C'est d'ailleurs ce parti de centre-droite qui avait insisté pour le surnommer le Obama de Gemer sur les affiches de la précédente campagne électorale en raison de son teint mat et de sa jeunesse. D'abord réticent, Stefan Vavrek avait fini par accepter en déclarant qu'il serait honoré de pouvoir rencontrer un jour l'ancien président américain dont il admire le parcours.
"28 pays, plus de 500 compétiteurs, 70 000 visiteurs. Les Euroskills qui se sont déroulés à Budapest en Hongrie ont mis l'apprentissage à l'honneur. Et la France s'y est bien distinguée. Une jeune Française, notamment Alice Darl, future coiffeuse, a remporté la médaille d'or de ce concours européen. Une compétition qui avait pour but de valoriser l'apprentissage, notamment dans les métiers techniques où l'on manque de main-d'œuvre." Reportage Florence Labruyère.
Dans le parc des expositions de Budapest, les concurrents s'affairent dans leurs ateliers respectifs. Willy Fourier a 22 ans, ce jeune maçon vient de Bourgogne-Franche-Comté. Pour le concours, il a dû construire une maquette en briques qui reproduit un monument historique de Budapest. C'est grâce à l'apprentissage que Willy a découvert son métier.
Je pense que c'est vraiment bien, hein. 2 semaines de boulot, 2 semaines d'école ou 3 semaines de boulot, 1 semaine d'école. Je trouve ça bien, il n'y a pas trop d'école parce qu'en général ceux qui font l'apprentissage, ils n'aiment pas bien l'école déjà. Ils préfèrent aller travailler, donc 1 semaine par mois, moi, je trouve ça bien. Il faut quand même aller à l'école, hein. Faut savoir compter, écrire, lire. Donc si on est chef d'entreprise, il faut savoir compter, gérer des papiers, faire des plans, il faut un minimum de savoir, quoi. Ouais, les avantages, c'est qu'en maçonnerie, ça a beau l'air d'être un métier où on monte des bâtiments, des blocs carrés, mais ça peut être un métier aussi où on fait des jolies structures, des jolis trucs en béton, et l'été, on est dehors, il fait beau, enfin, c'est le gros avantage, quoi.
À l'intérieur d'une cabine qui ressemble à un engin spatial, une machine taille une pièce de métal. Alexandre Clarins dirige la machine à distance à l'aide d'un ordinateur. Alexandre est fraiseur. Il vient de terminer son apprentissage et n'a eu aucun mal à trouver un emploi en CDI, car les fraiseurs sont très recherchés dans l'industrie.
Les emplois de fraiseurs, c'est très varié, parce qu'on est là dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans la défense, on est vraiment partout. Et tout ce que vous touchez chez vous, il y a un fraiseur qui est passé par là.
En France, un apprenti partage son temps entre l'entreprise et l'école. Difficile de respecter cette régularité en Estonie, où l'hiver est trop rude pour travailler dehors, comme l'explique Myrold Mand, qui a fait son apprentissage comme jardinier paysagiste.
Pendant l'hiver, d'octobre à avril, on ne peut rien faire parce qu'il y a beaucoup de neige. On ne peut pas creuser la terre. Les apprentis vont donc à l'école d'octobre jusqu'à la fin avril. Et du mois de mai jusqu'à la fin septembre, ils font leur stage pratique en entreprise.
En Estonie, contrairement à la France, pas facile pour un apprenti de trouver du travail. Car selon Myrold, les employeurs préfèrent embaucher des diplômés de l'université. Et quand on n'a pas de réseau, c'est encore plus difficile.
En Estonie, ce n'est pas évident de trouver un job si vous n'avez pas des gens pour vous pistonner, de la famille, des amis.
En fait, l'importance de l'apprentissage varie beaucoup d'un pays à l'autre, constate Laurence Gates, déléguée générale de WorldSkills Europe, qui organise le concours européen des métiers.
Il y a clairement des pays où l'apprentissage est plus valorisé que d'autres. Donc effectivement, ça dépend vraiment où vous allez en Europe. Ça dépend, on va dire, de l'implication, de la volonté, on va dire, au niveau des gouvernements. L'exemple que je donne toujours, il date un peu, mais il est toujours tellement d'actualité. C'est en 2005. La Finlande avait un problème, puisque sa jeunesse se dirigeait majoritairement vers les études universitaires et non pas la formation professionnelle. Et il y a eu une vraie volonté du gouvernement de changer l'attitude des gens, des parents aussi, parce que ça c'est important. Ils ont fait une campagne au niveau national, impliqué tout le monde, et ils ont fait passer le message que, eh bien, apprendre un métier, ça valait autant qu'aller à l'université. Et ils ont réussi, ça leur a pris quelques années, mais ils ont réussi à renverser la tendance.
Aujourd'hui, plus de 40% des jeunes finlandais sont en apprentissage, et ces jeunes trouvent rapidement un emploi. Comme en témoigne Carolina, une coiffeuse de 21 ans. Après son apprentissage, elle a tout de suite été embauchée dans un salon de coiffure. En parallèle, elle a aussi créé sa propre société qui vend des produits cosmétiques.
Je pense qu'en Finlande, quand on veut, on trouve du travail sans problème. Par exemple, dans la peinture, l'esthétique, la mécanique automobile. Et dans la coiffure, il y a vraiment un manque de personnel. Sur Facebook et sur Instagram, on voit sans arrêt des annonces postées par des salons qui cherchent des employés.
Car malgré un taux de chômage important chez les jeunes dans certains pays de l'Europe, le continent manque de main-d'œuvre. Mais pour Laurence Gates, le problème n'est pas uniquement européen.
Le problème, lui, est global. Je pense que ce n'est pas uniquement européen. Suffit de lire un petit peu ce qu'on nous dit au niveau mondial pour se rendre compte qu'il y a un vrai problème partout. À partir du moment où on décide qu'une classe d'âge à 80% doit se rendre à l'université, il est clair qu'au bout d'un moment, on va manquer de gens qui savent pratiquer les métiers. Et je pense que le problème vraiment est là.
En France, le gouvernement a décidé de mieux valoriser l'apprentissage. Actuellement, seuls 7% des jeunes choisissent cette filière.
Difficile de ne pas en croiser si vous vous rendez en Andalousie les week-ends. Les groupes qui fêtent l'enterrement de vie de jeunes filles ou garçons sont nombreux et surtout très bruyants. À tel point que dans le sud de l'Espagne, on tente d'y mettre le holà, François Musso.
Dans le sud de l'Espagne, ce sont de véritables vagues successives les fins de semaine, spécialement pendant les beaux jours, ce qui en Andalousie peut signifier jusqu'à 6 mois de l'année. Ce sont des groupes de jeunes filles qui rendent un hommage à une de leurs amies avant son mariage prochain. Cotillons, couronnes de fleurs, déguisements extravagants, on rit, on crie, on chante à tue-tête, on boit jusque tard dans la nuit. Dans une ville comme Cordoue, on compte ainsi une trentaine d'enterrements de la vie de jeunes filles pendant un seul week-end. En Andalousie, la tolérance pour le bruit et la fête a toujours été immense. Mais il semble qu'une ligne rouge a été franchie, ce phénomène étant amplifié par l'offre nocturne illimitée, les bonnes communications ferroviaires et la multiplication des appartements touristiques. Si bien que de nombreuses villes andalouses veulent y mettre le holà. Le maire de Malaga a annoncé le renforcement du déploiement policier. À Grenade, on veut mettre un frein, je cite, à cette vitrine d'excentricité. À Cordoue, les hôteliers et restaurateurs ne veulent plus de ce genre de public. À Conil, un récent arrêté municipal est entré en vigueur cet été pour y mettre des limites. Et en juin, 30 jeunes filles ont eu des amendes allant jusqu'à 3000 euros. Quant à Tarifa, petite commune très touristique de la province de Cadix, on interdit désormais les déguisements grotesques qui, je cite, « perturbent la tranquillité des visiteurs nationaux ou étrangers ». De leur plein gré ou non, les enterrements de vie de jeunes filles vont devoir s'adapter ou renoncer à l'Andalousie.
Françoise Grelot était bien sûr à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous suivre maintenant sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.